BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Damien Deforest, merci encore une fois d'être avec nous. Vous êtes le patron de CA en France. Damien Deforest, beaucoup de questions. Savoir d'abord comment CA vous avez traversé la crise en France, mais pas seulement. L'industrie textile, on le voit, est très malmenée. Juste un point, la CPME qui demande l'abandon du protocole sanitaire à partir du 10 juillet. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que pour vous, c'est un vrai handicap?
Écoutez, nous, on suivra. CA a toujours été une entreprise légaliste et engagée. Nous avons, dès le départ de cette crise, protégé d'abord nos employés. Nous continuons à protéger nos collaborateurs d'une façon très stricte, au-dessus de ce qui nous avait été imposé. Nous continuons à protéger au maximum nos clients au sein des magasins. Donc, nous suivrons
l'évolution. Mais est-ce que le manque à gagner, par exemple, le manque à gagner pour vous, avec ce protocole sanitaire? Vous dites, nous accompagnons nos clients, mais du coup, ça veut dire avec un masque, combien de personnes dans votre magasin en moins? Je veux dire, vous faites rentrer 30%, 40% de vos clients?
Écoutez, d'abord, pour nous, CA, la santé n'a pas de prix. Ça, oui, c'est la première chose.
Oui.
La santé de nos collaborateurs n'a pas de prix. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons mis tout un process en route depuis l'entrée dans les magasins jusqu'à la sortie avec un parcours client simplifié. Oui. Le masque est obligatoire, la désinfection des mains est obligatoire, un nombre limité de magasins, mais nous avons globalement des magasins qui sont adaptés à leur zone de chalandise. Donc j'ai envie de dire, subissons certainement un petit peu une baisse de fréquentation.
Combien par rapport à...
De l'ordre de 20% par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, vous saviez que dans une semaine, on avait les soldes. Donc il est quand même difficile de comparer. Par contre, les clients viennent d'une façon, plus raisonnée. Ils viennent pour des achats plus de besoins, d'accord? Et nous avons voulu justement mettre une protection maximum au sein de nos magasins les clients puissent prendre plaisir à faire des achats.
Mais est-ce que ça serait important pour vous de supprimer ce protocole?
Nous suivrons la loi. Nous sommes légalistes, nous suivrons la loi, nous ne sommes pas là pour faire la politique. On est en entreprise engagée, absolument, responsable. Nous voulons absolument être l'entreprise la plus éco-responsable possible.
Oui, on a compris le message, Damien Deforest. Est-ce que l'industrie textile, on voit bien la difficulté pour cette filière. Le chiffre d'affaires, il est de combien aujourd'hui par rapport au niveau d'activité, pardon?
Alors, on ne parle pas beaucoup de chiffre d'affaires.
Oui, le niveau d'activité, c'est pour ça, pardon.
Voilà.
Oui.
Alors, grosso modo,
non, mais
pour
pas
revenir...
uniquement chez CA sur la filière. Hein.
Alors, excusez-moi. Fashion Network, ce matin, vient d'annoncer que le marché du mois de mai était à moins 23%. Oui. D'accord. Et je vous rappelle que c'est quand même un marché qui est par tendance déflationniste, étant donné que c'est un marché qui est à moins 17% depuis les 10 dernières années. Donc, nous, CA, ce que nous voulons, c'est de redevenir absolument l'entreprise, le retailer préféré en tant qu'éco-responsabilité pour les familles françaises. Et donc, nous pensons que par cette notion de responsabilité, nous avons une réelle légitimité au sein du marché.
Oui, mais bon, ce qui paraît important aujourd'hui, c'est est-ce que, par exemple, CA, vous travaillez avec des sous-traitants français ou des sous-traitants
du monde entier?
Est-ce qu'il y en a encore des Français? Est-ce qu'il en reste quelques-uns?
Il y en a quelques-uns. Il y a aussi beaucoup d'Européens ou du bassin méditerranéen. Ouais. Cette tendance va s'accélérer, c'est-à-dire que petit à petit, on sent bien que sur le marché du textile, ça va revenir plus près de chez nous, d'abord parce que c'est un problème de fiabilité et c'est un problème aussi de réactivité. Dans notre métier, il faut être agile, réactif et inventif. Et par exemple, CA, malgré la crise du Covid, a assuré 93% de ses commandes.
D'accord. Ça, c'est un point important. On va rappeler que CA, le monde, c'est 1400 magasins, 18 pays européens. En France, ça représente quoi, CA?
C'est 2400 collaborateurs, tout d'abord. C'est 142 magasins. Et ça représente à peu près 3% de part de marché du textile, car le marché du textile en France a ce particularisme, c'est que c'est un marché très segmenté, avec énormément d'acteurs, à la différence des autres marchés.
Est-ce que vous avez mis des gens au chômage partiel? Est-ce que vous avez quand même travaillé avec, notamment en ligne? Le en ligne s'est énormément développé, on le sait bien.
Oui, tout d'abord, dès l'annonce du samedi de Édouard Philippe, dès le lendemain matin, le dimanche matin, nous avions des magasins qui devaient ouvrir. Nous n'avons jamais ouvert ces magasins-là. Nous avons fermé immédiatement ces magasins. Nous avons suivi de fermer ce qu'on appelle l'entrepôt. Il fallait que les derniers camions arrivent et après on a fermé. Et on a fermé tout de suite le siège social et on a privilégié le télétravail. Et ça, c'était une chance extraordinaire, j'ai envie de dire. Dans notre malheur du Covid, il faut prendre les points positifs. Ça nous a permis d'accélérer le télétravail et plein de nouvelles méthodes de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous aura au moins apporté ça. Donc, effectivement, nous avons fait du chômage partiel au fur et à mesure de la fermeture des magasins.
Oui, à quelle hauteur enfin,
les magasins qui étaient fermés à hauteur. Oui, mais d'accord. CA s'était engagé sur le mois de mars de compenser la petite différence qu'il y avait entre ce que nous proposait l'État pour que nos employés ne soient pas lésés, pour qu'ils aient le temps de se retourner.
Oui.
Donc, ça, on l'a fait. Et en plus, je suis très fier de mes équipes, c'est que ces équipes qui étaient en chômage partiel s'est proposé. Et on avait fait un accord avec la FNSEA pour qu'ils se proposent volontairement de venir aider les agriculteurs.
Et est-ce qu'il y en a eu ?
120.
On a vu 120.
Ah oui, c'est énorme. Je suis très fier d'eux. 120 collaborateurs. Mmh. Parce que nous sommes une entreprise citoyenne et solidaire.
Il y a combien de magasins ouverts qui ont réouvert maintenant ?
Nous avons 142 magasins sur 142. Le dernier, le petit dernier, est à rouvert la semaine dernière.
Oui, d'accord. Donc, c'est la totalité. Alors, est-ce que maintenant, vous vous dites qu'il faut qu'on vende, entre guillemets, mais autrement. Vous voyez, bien donc il y a en ligne, mais pas seulement. Du reste, vous allez, c'est intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles aussi vous êtes là, Damien Deforest, vous allez vous associer en fait avec les géants casinos. Donc, vous préparez le monde d'après, entre guillemets.
Oui, nous sommes des retailers, donc on est en permanence à rechercher des nouveaux marchés. Effectivement, je pense qu'il faut aller chercher des nouvelles sources de chiffre d'affaires. Il ne faut pas rester statique. Donc, effectivement, nous avons voulu évoluer sur cette éco-responsabilité qui date de 1998. Hein, CA est sur le coton bio, sur tous ces produits plus responsables depuis 1998. Nous voulons accélérer. Nous voulons être la référence de cela. 37% du coton en 2019 était bio. Il sera 100% plus responsable à fin 2020. Donc, c'est vraiment sur ce marché-là où nous voulons aller. Et effectivement, nous sommes très heureux d'avoir signé cette collaboration avec les hypermarchés géants casinos.
Oui, va se passer ? Qu'est-ce que ça change, en fait ? Oui.
Pour eux ou pour nous ?
Pour vous,
pour
d'abord.
Nous, ensemble.
Et puis, oui.
Nous, pour nous, d'abord, c'est une réelle opportunité. Ce sont des tests, hein, pour l'instant. Nous faisons des tests. Nous ne voulons pas rester les deux pieds dans le même sabot. Nous voulons avancer. Vous savez que l'hypermarché est quand même les magasins qui ont le plus de fréquentation.
Oui, mais donc qui souffrent le plus, parce que c'est un modèle, justement. Justement, le gigantisme, c'est plus tellement dans l'air du temps.
Eh bien, je pense que, par le biais de mettre, entre guillemets, très humblement, des experts au niveau du textile, des experts avec Emma, ils ont signé il y a quelques temps, de redonner envie aux gens de retourner un peu dans les hypermarchés. Et nous, ça nous permet aussi de nous adapter parce que le concept va être différent de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous adaptons à la zone de chalandise.
Et vous allez vous adapter comment ?
Alors, en termes de taille, bien évidemment, en termes d'offres, d'accord ? Et en termes aussi de collection en permanence, parce qu'on ne vend pas la même chose à Lille qu'à Marseille.
Est-ce que ça veut dire que vous allez supprimer certains magasins ?
Ah non !
Non,
non, non.
Ah non, mais vous avez 142 magasins,
oui, oui.
Vous en ouvrez d'autres.
On en ferme.
En fermer ?
On en a signé, on a eu un PSE à signer en début d'année,
oui,
avant, le,
ça,
COVID,
oui.
Hein, avant
oui.
le Covid. Donc, bien évidemment, ces magasins qui sont prévus en fermeture vont fermer durant les 18 premiers mois. Mais nous allons continuer à ouvrir ces nouveaux magasins. Ça fait
qui
partie
coûte moins
du...
cher, qui coûte moins cher, en fait.
C'est différent. C'est un business model qui est différent.
On est d'accord.
Il coûte moins cher.
Oui,
mais
oui.
Le chiffre d'affaires est plus faible aussi. Donc, c'est toujours la même... adéquation. Mais
est-ce que ça veut dire que CEA, quand même, votre maison mère, réfléchit au fait, on s'en souvient des grands magasins CEA, réfléchit à avoir plus ces grands temples de la consommation et d'avoir des puisqu'il y a le commerce en ligne qui se développe énormément et d'avoir des styles exactement ce que vous êtes en train d'annoncer avec des boutiques, des sortes de corners, super corners chez Jean Casino ou d'autres.
Alors, on doit s'adapter sur chaque zone de chalandise. Il ne faut pas regarder ça dans sa globalité. Mmh. Il faut être très humble et s'adapter à chaque zone de chalandise. On a un magasin qui tourne très bien, qui est à Tourcoing, qui fait 800 mètres carrés, qui est tout petit. Et effectivement, on a des très grands magasins en région parisienne et simplement à Paris qui font 8000 mètres carrés.
Ouais.
Donc, on doit adapter, effectivement, les surfaces.
Mais 8000 mètres carrés, ça, vous êtes d'accord avec moi, ça ne correspond plus à l'air du temps ?
Il faudra que ça évolue, vous avez raison.
D'accord.
Il faudra que ça évolue, on évolue, on a des magasins qu'on a réduits, ça fait partie de la vie d'un retailer, hein, de s'adapter, d'adapter son portefeuille de magasins en permanence, d'agrandir, de rétrécir, de refaire, de défaire, de fermer de temps en temps, de rouvrir à côté. Tout à fait.
Oui, d'accord, donc on est beaucoup dans le... Comment est-ce que vous voyez les mois qui viennent, très difficiles ? reprise d'activité, on voit que ça reprend, mais doucement. Même si, non, les Français ont envie de consommer. Non.
Nous, on a été très agréablement surpris. On a été très heureux de rouvrir, d'abord. Ouais. Et je ne remercierai jamais assez mes collaborateurs. Mais en plus de ça, il y a eu vraiment une reconnaissance de la part de nos clients, de l'accueil qui a été réservé. Ils sont vraiment sentis en sécurité. Mmh. Donc, effectivement, la fréquentation est un peu plus faible. Mais on sent que chaque jour, ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore. On va attendre de voir les soldes. Vous savez que la solde, on les a décalés. Ouais. D'accord ? On les a décalés de 3 semaines.
15 juillet.
Exactement, le 15 juillet. Donc, on va... Pour voir vraiment la finalité, vous savez que nous, on travaille par saison, printemps, été, automne, hiver. Il faut attendre la fin des soldes d'été, qu'on fasse finalement un bilan. Mais effectivement, ça ne sera pas une belle saison.
Ça ne sera pas une belle saison. Est-ce que c'est les soldes décalés, on dit que ça a été fait beaucoup pour le petit commerce, pour histoire de se refaire un peu une santé. Est-ce que pour vous, c'est trop tard ?
Moi, je m'adapte. Je m'adapte à la loi. Je pense que ce n'est pas une mauvaise décision, en fait.
Ah oui ? Pourquoi ?
Ouais. Parce que, si vous voulez... Les gens, les Français, moi je pense toujours aux clients d'abord. Les clients ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont partir en vacances. Mmh. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on disait bah, il faut qu'ils s'équipent juste avant de partir en vacances, c'est-à-dire aux alentours du 28 juin. Aujourd'hui, on voit bien que le départ est plus tard. Donc, le 15 juillet n'est pas une mauvaise décision.
D'accord. Et donc, vous attendez beaucoup des soldes ?
Nous, on est relativement propre en termes de stock. Donc, il y a des concurrents qui ont beaucoup plus de stock. Nous, on a plutôt bien géré. Mais effectivement, nous aurons besoin des soldes pour bien présenter le back to school, le retour de la rentrée des classes pour les enfants, pour offrir une très belle offre et que les clients soient totalement satisfaits dans le magasin.
Merci beaucoup, Damien Deforest, donc directeur général de CA France. On voit bien toute l'évolution à travers vos propos de votre industrie. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. C'est le retour du club de l'RH. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Le club de l'heure H, le retour avec Jean-Claude Mailly, secrétaire, ex-secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Beaucoup de questions à avoir évidemment avec vous. Il y a le chômage partiel, il y a le chômage partiel de longue durée. Il y a ces fameux accords de performance collective, c'est-à-dire du style tu acceptes de baisser ton salaire ou sinon, c'est le chômage, quoi. Donc je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à tous ces sujets. Est-ce que, peut-être première question quand même, puisque vous restez très connecté, est-ce que il faut redouter une crise sociale extrêmement importante. On a vu Air France, voire Renault, on voit même ici le groupe BFM. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'annonces de plans de licenciement.
Oui, je crois qu'il y a trois catégories. Il y a trois catégories d'entreprises finalement aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire et les conséquences économiques. Il y a celles qui ont traversé sans grande difficulté la période. Quand je dis sans grande difficulté, sans avoir pour autant vu leur activité diminuer. Enfin, vous avez des entreprises dans les services qui ont tourné quasiment à 100% de télétravail, avec une productivité qui n'a pas baissé, qui sont en train d'ailleurs de voir comment ils peuvent continuer à travailler de manière importante en télétravail. Bon. Après, vous avez les entreprises qui ont été impactées dans leur activité. Et là, il y a deux catégories. Il y a celles où il va y avoir des tensions parce que quand vous supprimez des postes de travail, la manière dont vous les supprimez, ce que vous exigez, etc. Il y aura des tensions. Mais je pense dans le secteur de l'aéronautique ou dans le secteur de l'automobile, il y a des tensions, mais il y aura des négociations. Et après, il y a la troisième série, c'est les entreprises qui ont été impactées, dont certaines ne redémarreront pas, qu'elles soient TPE, PME notamment, ou sous-traitants, y compris dans la filière aéronautique, par exemple. Et là, c'est là que peut venir une crise sociale aussi. Vous savez, comme je dis toujours, les gens se révoltent quand ils n'ont plus rien à perdre. Et plus rien à perdre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, on n'a plus de boulot, on n'en retrouve pas, ou on est artisan ou restaurateur, on est obligé de fermer la boutique, etc. Et on se retrouve sans rien, voilà. Et ça, on ne peut pas l'exclure, parce qu'on voit très bien que tout ne se dit pas, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui travaillent sur des plans de restructuration. Quel qu'il soit. Et les accords de performance collective, je pense qu'il faudrait les revoir, moi. Faudrait élargir.
Ça veut dire quoi ? Parce que, on a vu celui de Richebourg qui a été un des premiers à en signer. Oui. En même temps, quand on regarde un peu dans le détail, c'est correct, entre guillemets. Vous voyez, pas scandaleux comme chantage.
Non, mais c'était pas un chantage, d'ailleurs. Il y a une signature. Chez Richebourg, il y a une signature. Ça a été un chantage. Oui, il faut. C'est un chantage chez Ryanair. Effectivement du chantage. Ouais. Bon. Non, mais vous savez, quand les salariés, les syndicats dans une entreprise sont convaincus que les difficultés sont réel, qu'on leur raconte pas des histoires. Ça négocie. C'était vrai avant et ce sera vrai également en ce moment, c'est évident. Mais quand je dis qu'il faut élargir, il faut intégrer les questions de formation. Il faut faire plutôt des accords de transformation sociale, ou on les appelle comme on veut, mais qui élargissent aux questions de formation, d'intégration des jeunes, etc. Puis, alors, le truc qui ne marche pas, mais ça, c'est quand votre salaire baisse. Ça ne passe pas. Mais il y a d'autres moyens d'action en matière d'organisation du travail, en matière parfois de RTT, ou sur certaines primes où on peut jouer, etc. Vous parliez de Richebourg, tous les salariés qui sont en dessous de 2,5 SMIC ne sont pas percutés, par exemple. Absolument. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu...
Suppression du 13e mois, sinon.
Oui, il y a un effort qui est fait. Bon, à un moment donné, ça se jugera dans la durée. Après, il faut que l'entreprise respecte ses engagements en termes d'emploi. Hein, donc, il y a des accords de ce type, ils vont y en avoir, mais il y aura aussi des PSE difficiles, c'est évident.
J'ai une question qui n'est pas facile pour vous, mais en même temps, j'espère que vous allez y répondre, Jean-Claude Mailly. C'est justement quel jugement vous portez sur le dialogue social en ce moment entre les syndicats? On voit bien qu'ils ont repris langue, c'est-à-dire que oui. FO a repris langue avec la CGT, qui a repris langue avec la CFDT, même avec la CFE-CGC, donc il n'y a pas un front unitaire, mais enfin, en tous les cas, on se reparle. Est-ce que vous trouvez qu'ils jouent, enfin, pas qu'ils jouent le jeu, mais qu'ils sont présents sans en faire trop?
Écoutez, moi, je pense d'ailleurs que les ponts, au moins, entre les secrétaires généraux ne sont jamais rompus. On se parle, même quand on n'est pas d'accord, on se parlait. Hein, donc, je pense que ça continue, ça. Il y a des
attaques très dures entre CFDT, SCGT, voire FO.
Non, mais ça peut arriver, mais c'est pas pour ça qu'on se parle pas, quoi. Bon, puis c'est pas l'essentiel. Non, ce qui est regrettable, c'est que, par exemple, au niveau interprofessionnel national, entre le MEDEF, la CPME et les confédérations syndicales, il n'y ait pas plus de discussions pouvant aboutir sur des accords comme sur le télétravail ou des accords cadres, bien entendu. Ça, c'est regrettable. Et toutes les branches n'ont pas négocié de la même manière. La métallurgie, où il y a eu plusieurs accords de signés et de bons accords qui, à la fois, gèrent la situation actuelle, mais anticipent sur l'avenir, sur la situation de l'apprentissage, etc. Donc, après, dans les entreprises, ça négocie, mais ça négocie toujours dans les entreprises, avec plus ou moins de tension, mais ça négocie toujours.
Et quel jugement vous portez sur l'action du gouvernement, notamment sur le chômage partiel, sur les plans d'aide massifs, quand même, qui ont été apportés, les fonds de solidarité, plans de relance les prêts garantis par l'État, tout le dispositif qui a été sorti. Est-ce que vous êtes quand même impressionné, ou est-ce qu'il est à la hauteur, ou je pense que le gouvernement aurait peut-être pu aller plus loin, ou doit encore aller plus loin?
Tout ce qui est chômage partiel, il a bien fait d'agir comme il l'a fait. Hein. Bon, alors, ça ne peut pas durer éternellement, on le sait bien, hein, mais il a bien fait d'agir sur les aides, etc. Enfin, ce n'est pas 500 milliards d'ailleurs. Hein. Quand le président de la République annonce un chiffre de 500 milliards, il additionne les torchons et les serviettes d'une certaine manière.
Les choux et les carottes, comme on
dit. Oui, ou les choux et les carottes. Hein, bon, en argent réellement dépensé, on doit tourner pas loin de 60 milliards. Quoi. Après, il y a les prêts garantis, il y a toute une série de choses. Mais ce sera insuffisant. Il va y avoir le plan de relance, je ne sais pas.
Vous avez déjà à peu près 63% de l'économie, je veux dire, qui est financée par l'État, quoi.
Oui. Non, mais ça ne peut pas durer. Mais il va falloir être inventif. Il va falloir faire, par exemple, ce qu'on appelle des plans de retournement pour les entreprises. C'est quand une entreprise est fortement endettée, parce que les prêts garantis, il faudra les rembourser d'une manière ou d'une autre. Quand elle est trop endettée, elle hésite à investir. Donc, il faudra peut-être entrer dans le capital, même si c'est temporaire, pour donner de l'oxygène aux entreprises, afin qu'elles puissent traverser plus facilement la crise. Et puis, il y aura le plan de relance. Je ne sais pas ce que contiendra le plan de relance, mais il va falloir faire un plan de relance également. On aura ça le mois prochain, plus d'éléments, etc. Et puis, il y a tout l'aspect européen. La Banque Centrale Européenne vient d'annoncer encore plus de 1300 milliards de prêts aux banques. Donc, l'aspect européen est essentiel.
Oui, je rejoins dans le dispositif. On voit bien qu'effectivement, tout se tient. Quoi. Il y a des phénomène de résonance, en tous les cas pour amplifier le mouvement. Sur la question du chômage partiel, il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait le diminuer ou pas. Quelle est votre position, Jean-Claude Mailly, par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez qu'il faut le maintenir, ou est-ce que vous comprenez qu'il faille quand même faire revenir certaines personnes au travail, hein?
Oui, bien sûr. Non, mais il faut que le travail reprenne. Il est en train de reprendre, d'ailleurs. Hein.
Il y en a certains où ça coince.
Vous savez, vous avez des salariés qui, dans le secteur des services notamment, qui ont apprécié le télétravail et qui ne veulent plus revenir au bureau. Ça existe aussi.
Alors ça, c'est encore autre chose.
Sur le chômage partiel, non, il ne faut pas le baisser trop rapidement, parce que ça veut dire que les entreprises vont licencier tout de suite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que entre le carnet de commandes qui ne revient pas et l'activité qui ne revient pas, plus tous les gestes barrières qu'il faut faire, mais qui pénalisent la productivité. Donc, il faut maintenir encore pendant une période. Bon, c'est ce que fait le gouvernement. Il a baissé de 70 à 60, sauf pour les entreprises qui sont en grande difficulté dans les secteurs. Mais faut continuer à garder ce niveau-là.
Il faut continuer à ce niveau-là.
Oui, oui, oui. Faut pas le baisser encore plus. Sinon, ça va se traduire par du chômage. Hein. Il y en a déjà. Il y en aura encore. Hein. Difficile de savoir combien, mais plusieurs centaines de milliers de chômeurs. Faut s'attendre à ça, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faudra financer aussi. L'UNEDIC devra faire face. Le gouvernement devra faire face avec son budget. Je crois que, bon... Vous savez, l'endettement ne m'inquiète pas plus que ça. Notamment avec ce qui se fait actuellement au niveau européen. On a même fait un papier avec quelques collègues. On a appelé ça « Qui s'endette s'enrichit ». Donc, voilà. Donc, c'est faut pas s'affoler.
Mais c'est le grand débat, effectivement.
Débat. Mais je pense que sinon, on va quand même pas faire des plans d'austérité. On a vu ce que ça a donné sur une situation moins grave en Grèce à l'époque, ou en Espagne. L'heure ne doit pas, surtout pas être au plan d'austérité. Il faut à la fois un mix offre et demande. Il faut faire
les deux. Après, dès qu'il y a un retournement... notamment sur les taux d'intérêt, qui va payer, c'est peut-être les générations d'après. Vous voyez, c'est donc l'endettement, on s'enrichit pas quand on s'endette.
La différence entre un ménage et un État, quel qu'il soit, un ménage ne peut pas tirer sa propre planche à billets. Il peut pas avoir sa propre monnaie. Il peut pas fixer le niveau de ses recettes. Un État peut, en Europe, c'est via la Banque Centrale Européenne, créer de la monnaie. Et aussi jouer sur les impôts. Donc, on ne peut pas comparer.
Le télétravail, justement. Alors, il y a des discussions qui sont en cours, parce que c'est Philippe Martinez, le directeur de la CGT, que je recevais il y a quelques temps, qui disait que le télétravail, ce n'est pas le travail à la maison. Sans quoi, il avait assez raison. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit encadré. Ça a du mal à... Bon, il y a des discussions. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme barrière?
Parce que le télétravail, d'une certaine manière, c'est une délocalisation.
Oui.
C'est une délocalisation de l'entreprise vers la maison.
Son salarié.
Vers le salarié. D'une certaine manière, au 19e siècle, dans le textile, les gens travaillaient chez eux pour fournir... Donc, il ne faut pas que ça revienne à un statut de ce type, quoi, hein, ou un travailleur qui serait soi-disant freelance à la demande, etc. Donc, ça doit s'encadrer. Ça doit s'encadrer avec tout ce qui est droit à la déconnexion, etc. Il faut maintenir aussi un moment où les gens se voient. Hein, ça ne peut pas être uniquement par vidéo et conférence téléphonique. Hein, il faut qu'à un moment, j'en sois. Je sais qu'il y a des entreprises qui envisagent de quasiment fonctionner en télétravail en mettant des bureaux flex dans les régions, etc. Tout ça, ça négocie dans pas mal d'entreprises. Il y aura une part plus importante de télétravail, mais il faut protéger. Et puis, si le bureau est à la maison, vous devez avoir une compensation.
Voilà, parce c'est que j'allais dire.
Le siège social, quand vous avez une diminution des frais d'immobilier et que vous le transférez sur vos salariés.
Vous louez les quelques mètres carrés.
Le matériel, l'utilisation de locaux, etc. Tout ça doit être négocié, effectivement.
Et ça doit être
dans le cadre d'un projet. Ça ne peut pas être uniquement « je vais réduire mes frais immobiliers, donc on va faire ça ».
Absolument, puis il faut quand même garder ce lien avec son salarié, parce que s'il est délocalisé à l'autre bout de la France, ce n'est pas forcément formidable pour l'esprit d'entreprise.
Bien sûr, ça risque de le casser complètement.
Merci beaucoup Jean-Claude Mailly.
Merci à vous.
À bientôt, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Dans un instant, il vient d'être élu à la tête de la Fédération Française du Bâtiment. Olivier Salleron est notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est le nouveau président de la Fédération Française du Bâtiment, Olivier Salleron. Merci encore une fois d'être avec nous, parce que vous venez à peine d'être élu. Vous remplacez Jacques Chanu, qu'on connaît bien ici à BFM Business. Olivier Salleron, hier, Julien Normandie nous disait les chiffres dans le BTP, reprise d'activité, c'est à peu près 93%.
Oui.
En même temps, il y a aussi 70% des entreprises qui retravaillent. Oui. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? J'imagine qu'ils viennent un peu de chez vous quand même.
Ils viennent un petit peu de chez nous, nos enquêtes, mes terrains. Donc 93% de reprise des chantiers, ce qui est très bien. Une reprise exponentielle depuis quelques semaines, c'est ce qu'on voulait. C'est aussi 93% de nos salariés qui ont retrouvé le terrain ou les bureaux. Ça, c'est important. Mais vous venez de le dire, malheureusement, 70% d'activité, donc de rendement. On voit bien qu'aujourd'hui, on travaille à perte. 93%. Moins 70, eh bien le delta, c'est ce qu'on perd aujourd'hui sur les chantiers. Donc, c'est notre problème actuel.
Et alors, vous perdez, quand vous dites vous perdez ça comment? Ça veut dire que déjà, tous ces frais liés à des protocoles sanitaires, ça a un coût, 8 milliards, je crois que ça a été chiffré à peu près à ça.
Exactement. Alors, nous, on l'a valorisé à peu près à 2-3% un petit peu de nos marchés. Vous l'avez dit, c'est l'équipement, c'est tout ce qu'il y a, équipement de protection individuelle spécial Covid pour les salariés, mais aussi cheminement un petit peu dégradé, ralenti. Et ensuite, on a tout ce qui est main-d'œuvre. On passe plus de temps pour faire la même tâche. Donc, nos chantiers sont ralentis au niveau de la main-d'œuvre. Évidemment, si on peut pas maîtriser les surcoûts et en tout cas les partager, c'est notre gros combat aujourd'hui. Eh bien, on perd de l'argent.
Et alors, est-ce que c'est la question que je posais il y a un mois déjà au ministre du Logement et de la Ville. Il disait, il faut que ça... Non, je le posais à Bruno Le Maire, même, vous voyez, en disant, est-ce que ça doit être partagé? Il disait, oui, ça doit être partagé. Est-ce que ça l'est, notamment, pour tout ce qui est acteurs publics? Les acteurs privés, c'est autre chose.
Alors aujourd'hui, non. Bruno Le Maire en a parlé il y a plus d'un mois, donc très bien. Mais beaucoup de paroles, mais peu d'agissements. Les surcoûts, pour nous, c'est entre 5 et 15% des marchés, suivant l'avancement du chantier. Donc aujourd'hui, on n'est pas en attente, on est en action, mais on veut que les surcoûts soient partagés. Aujourd'hui, que ce soit les marchés publics et les marchés privés, malgré le fait qu'on signe des chartes, on n'y arrive pas. Donc, la catastrophe, c'est quoi? Mais c'est qu'on ne gagne pas d'argent et qu'à la fin de l'année, 100 à 200 000 salariés du secteur du bâtiment, 40 000 entreprises sont en danger de faillite, et 100 à 200 000 salariés au chômage. Donc aujourd'hui, vraiment, on est en danger, c'est clair.
Cri d'alarme hein, que vous poussez ici.
Oui, cri d'alarme plusieurs fois.
Et ça passe partout. Pas, on veut dire, vous n'avez pas... Vous pouvez joindre le ministre de l'économie ou le ministre de la Ville?
Le ministre de la Ville a déclaré hier, ainsi que notre ministre du Travail, Mme Pénicaud, aux joies, trois mois après, de dire que le moteur de l'économie aujourd'hui était le commerce et le bâtiment.
Oui, il l'a dit là. Oui.
Et la construction. Le moteur de l'économie, l'économie française et le bâtiment. Donc, quelque part, on attend aussi quelques aides précises. On voit comment les surcoûts, on ne peut pas les partager. Il faut que le gouvernement nous aide, c'est-à-dire prenne en charge les surcoûts par l'annulation des charges, comme les autres secteurs. Le bâtiment est sur le podium des entreprises et des secteurs qui ont été touchés le plus gravement. Je vous rappelle que le premier jour, 95% des chantiers se sont arrêtés brutalement pour mettre
mais
nos gars en chantier.
Personne ne vous demandait d'arrêter les chantiers, hein, du reste.
Tout le monde.
Si je puis me permettre.
Le président de la République a répété 6 fois, nous sommes en guerre, protégez-vous. Nous n'étions pas capables d'assurer la protection de nos salariés le lendemain, avec les règles du Covid. Donc il a fallu faire un guide de précaution que l'on a fait avec les organisations salariales, syndicales, patronales et 4 ministères quand même, dont le ministère de la Santé qui a signé avec nous. Et ça, c'était la base de réouvrir les chantiers. Ça s'est fait difficilement au début.
Oui,
le problème
oui,
des masques. Oui. Et depuis quelques semaines, 93%.
Parce qu'il y a quand même quelques grands acteurs qui disent, mais attendez, le BTP s'est arrêté beaucoup trop. On a eu un mal fou à faire revenir des entreprises, à faire revenir des artisans.
Le bâtiment, c'est de la coactivité, c'est multi-entreprises, c'est beaucoup de procédures, beaucoup d'organisations. Du jour au lendemain, on ne pouvait pas redémarrer comme ça. Chez les particuliers, oui, il a fallu un effort. D'ailleurs, le gouvernement aussi a fait un effort de communication pour dire aux particuliers, les entreprises sont formées, elles sont prêtes. Ouvrez vos portes. Voilà, ouvrez vos portes aux artisans et aux entrepreneurs. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on constate depuis quelques semaines. Et l'activité a repris fortement grâce à ça aussi, en nous voyant prêts à retravailler en toute sécurité pour nos salariés et nous-mêmes et les clients sur les chantiers, tout simplement.
Olivier Salrondon, qu'est-ce que... D'abord, il y a une aide, donc on a bien compris. Vous poussez un coup de gueule en disant il faut aller sur coup, il ne faut pas que tout nous retombe dessus. Alain Dinal, le patron de Nexity, il disait qu'on partageait, peut-être que c'est pas votre... Vous êtes à Périgueux, peut-être que vous travaillez pas avec Nexity.
Nexity a quelques projets en Dordogne aussi, en Périgord.
Est-ce que c'est vrai?
Les négociations sont lancées, je dirais.
Voilà,
il faut accélérer.
Okay.
Accélérons.
Non, mais c'est pour ça que c'est important.
Signons des choses très précises avec des chiffres en face. Je vous disais 5 à 15% de surcoût. La moyenne des marges dans le bâtiment petite et grosse entreprise en France est 2%. Il suffit de faire juste un petit calcul mathématique pour voir la catastrophe qui peut se produire si on n'est pas aidé avant la fin de l'année. Donc, les surcoûts partagés, mais l'aide de l'État. L'aide de l'État.
Alors justement, normalement, en tout cas ça se discute, hein, je crois. Alors, déjà certaines mesures sont prises dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative, mais il devrait avoir un grand plan PME et de rénovation thermique. Est-ce que vous discutez? On dit même que c'est le président qui suit ça et qui fait ça.
C'est un axe fort, rénovation énergétique et thermique des bâtiments. Ben évidemment, on accueille ça à bras ouverts. Ça n'a pas forcément très bien marché depuis 10-15 ans, toutes les mesures qui ont été prises.
Ouais, les allers-retours, c'est tellement compliqué qu'on...
Vous l'avez
nous,
dit.
En tant que consommateurs, on
vous
s'y
l'avez
perd.
Dit. Oui. Il fallait attendre fin décembre pour savoir quelle sauce on allait être mangé le 1er janvier. Ouais. Donc cette indécision, ces plans les uns après les autres, qui sont modifiés tous les ans, ben évidemment, la stabilité... Ça ne peut que renforcer.
Donc là, vous voulez quoi?
Là, on veut déjà être intégré à cette réflexion du plan de relance.
Vous l'êtes pas?
Alors, je vais vous dire autre chose. C'est même pas qu'on ne peut pas être intégré, c'est que nous, on va proposer notre plan de relance. Je pense que la Fédération française du bâtiment est assez puissante, à la capacité et la, je dirais même la légitimité de proposer elle-même son plan de relance. Eh bien, je vous le dis, le plan de relance va être présenté le 30 juin au matin, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous sommes prêts et nous allons proposer quelque chose de très concret. On ne va pas attendre la relance septembre, octobre, etc. Hein, mais là, dès le 30 juin, on a un axe fort.
Sans tout nous dévoiler, est-ce que justement, vous pouvez au moins nous donner l'axe fort, annulation de charges, ça, j'ai entendu le message.
Ça, c'est tout de suite, c'est pour la reprise. Ouais, hein, ça, c'est des choses comme ça. Hein. C'est retour aussi, alors on parlait des particuliers, à l'éligibilité de l'ensemble des particuliers, de l'ensemble de nos concitoyens, aux aides en rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, il y a toute une partie qui ont perdu des aides. On sait bien ce que ça fait, cet effet psychologique d'avoir un petit peu d'aide ou beaucoup pour faire des travaux. C'est excellent d'aider les personnes et les familles modestes et très modestes, mais il ne faut pas oublier les autres, les Français, on va dire, à revenus moyens et plus, parce qu'eux aussi ils consomment. Et donc aujourd'hui, cas exceptionnel avec le Covid, on a besoin de redémarrage immédiat, d'une reprise flash. Donc si on ne l'a pas, si on ne déclenche pas ces devis tout de suite, catastrophe, trou d'air. Au mois d'octobre.
D'accord. Là, on voit bien, effectivement, comme vous dites, on est dans l'opérationnel, là, Olivier.
Exactement.
Avec vous. Marché public et assouplissement des commandes publiques. Alors, est-ce que c'est
l'assouplissement de
alors, est-ce qu'on est dans la com toujours ou pas, puisque vous.
Non, on n'est pas dans la com. Vous savez, jusqu'à 40 000 euros, les établissements publics pouvaient demander plusieurs devis. Et donc, on assouplissait un petit peu la rigueur administrative qui prenait des semaines ou des mois pour déclencher les travaux. Là, tout de suite, donc 40 000, on parle de 100 000, pourquoi pas, et avec plaisir. Nous, on l'accueille avec plaisir. Pourquoi ? Parce que ça fait surtout bosser le tissu territorial, local. Moi, je viens d'une région rurale où il y a un artisan dans chaque village et chaque petite ville. Donc là-dessus, ça, c'est excellent. Il faut déclencher des petits travaux. Et, enfin, 40 000 euros, c'est quand même des bons travaux aussi. Donc plus, le plus possible, et tout de suite. C'est maintenant qu'on a besoin.
Il y a une grande question très très importante, parce que c'est vraiment l'avenir de la France, et tout ce qui est l'emploi des jeunes, l'apprentissage, des mesures qui ont été prises. Est-ce que l'idée du reste qui avait été lancée par Xavier Bertrand, mais qui est repris en partie par Bruno Le Maire sur l'embauche de jeunes,
bien sûr,
sont une prime à l'embauche, ou alors exonération de toutes les charges. Qu'est-ce que vous préférez? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire?
Alors la prime à l'embauche est très bien, l'exonération de toutes les charges des apprentis, ça existe déjà. La revalorisation des salaires des apprentis, ça existe déjà aussi. C'est vrai qu'on était sur une bonne tendance. Hein. On était à plus de chiffres, plus 10, plus 12 depuis quelques années. On remontait la pente au niveau des apprentis. Et là, patatras, ça revient pareil. S'il n'y a pas du volume chez nos entreprises, chez nos artisans, chez nos grandes entreprises aussi, en face, il n'y aura pas d'apprenti. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Les mesures, ce n'est pas parce qu'il y a des milliers d'euros qui vont tomber ou des exonérations de charges. Si on n'a pas de boulot, ce n'est pas possible.
D'accord. Voilà. Mais là, sur l'apprentissage, est-ce que là, c'est zéro apprentissage pour l'instant?
Non, bien sûr. De toute manière, le bâtiment, nous, on représente quasiment la moitié des apprentis de main-d'œuvre. Donc, évidemment, on a nos CFA BTP, on a beaucoup de choses, on a la formation continue. Moi, j'ai basé là-dessus aussi sur ma campagne, c'est-à-dire l'apprentissage, c'est très bien, mais aussi récupérons des jeunes adultes en réorientation, qui se seraient trompés de branche, qui s'ennuient devant leur écran, récupérons-le parce que dans le bâtiment, parce qu'aujourd'hui, je le prouverai à l'automne en organisant les états généraux de la construction, que l'on va organiser, nous, la FFB, pour montrer à l'ensemble de nos concitoyens que le bâtiment est innovant.
D'accord, ça c'est le point important. Et puis le rendez-vous est pris le 30 juin. Hein,
exact.
Donc vous revenez nous voir avec votre plan de relance de la Fédération du bâtiment. Merci beaucoup, Olivier Salran, d'avoir été tout de suite avec nous ici à BFM Business, donc le nouveau président de la Fédération française du bâtiment. Dans un instant, on part à New York où nous attend Thomas Philippon, économiste. Justement, il a des mesures sur comment éviter les faillites et comment le chômage partiel. Est-ce que finalement il n'y a pas d'autres dispositifs? Et il fait partie de cette équipe d'économistes et d'experts qui est autour d'Emmanuel Macron pour construire le monde d'après. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il est en direct de New York, l'économiste Thomas Philippon, qui est professeur de finance à la Stern Business School de New York. Merci d'être là, Thomas Philippon. On va rappeler aussi que vous travaillez aux côtés d'Olivier Blanchard et de Jean Pisani-Ferry sur le monde d'après. Vous travaillez aux côtés du président de la République. Bonjour, merci d'être là. Quand vous observez ce qui se passe en France, notamment tous les dispositifs qui sont mis en place, est-ce que malgré tout, vous vous dites, ils ont fait le job?
Oui, je pense que la réponse à la crise avait un volet sanitaire, un volet économique. Tout le monde est d'accord pour dire que le volet sanitaire a été pas très bien réussi au début. et qu'on s'est rattrapé ensuite. Sur le volet économique, je pense qu'on a fait du bon travail depuis le début, et ça se voit par le fait que le revenu des ménages a été protégé. Les gens ont été protégés des conséquences de la crise économique dans une très large mesure, ce qui fait que c'était ça le but ultime des programmes de chômage partiel et de soutien aux entreprises. Donc ça, c'était une réussite. Maintenant, il faut passer à la phase 2.
Alors justement, oui, parce que vous allez voir sur le chômage partiel, vous dites, attendez, il y a d'autres dispositifs qui sont peut-être beaucoup plus encourageants. Et là, sur les faillites aussi, vous avez des idées. Juste une question pratique presque. Comment va marcher ce comité de réflexion autour du président de la République qui en laisse certains sceptiques et puis d'autres, au contraire, qui disent que ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec la recherche et donc ils sont assez en pointe sur ce qui peut faire notre monde de demain?
Ah, ils sont très en pointe. Ça, c'est pour l'instant, on a eu une grande réunion il y a 2 semaines. On a passé quand même 2 heures en visioconférence avec le président, ses conseillers et Bruno Le Maire aussi. Donc, pendant 2 heures, ils étaient là tous. Ça vous montre quand même qu'il y a un niveau d'engagement assez fort. Les gens qui font partie de la commission sont tous des chercheurs, des universitaires, qui sont en pointe sur leur sujet. Donc, ils vont apporter la frontière des connaissances en recherche sur 3 sujets dont on pense qu'ils sont très importants. Les inégalités et comment créer des emplois qui sont de bons emplois accessibles au plus grand nombre. Deuxièmement, comment on fait les progrès pour traiter le réchauffement climatique, et troisièmement, comment on s'occupe, comment on prend en compte le vieillissement des populations. Donc, ce sont 3 sujets qui préoccupent les gens et aussi les décideurs, et sur lesquels on a fait quand même beaucoup de recherches et beaucoup de travaux et de progrès sur ce qu'on sait ou ce qu'on comprend dans les dernières années. Et donc on veut apporter toute cette connaissance sous la forme de propositions concrètes, à la fois de réformes politiques et aussi de suivi des réformes.
J'ai une question, c'est vous qui m'a suggéré, mais vous parlez des décideurs. Justement, est-ce que le fait d'avoir que des universitaires, même quelle que soit leur brillante pensée, est-ce qu'il manque pas un petit peu de décideurs, d'opérationnels qui connaissent la réalité des choses?
Ah, mais ça serait vrai dans un monde où on pense que le rapport est clos. Le rapport, il est là pour donner des idées, des pistes, aller jusqu'au moment où on sait faire des propositions de politique économique et de suivi. Mais après, il y a un rôle pour d'autres parties prenantes, à la fois politiques et aussi de la société. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas de syndicat, par exemple. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on veut faire on veut faire des propositions de recherche, sachant qu'après, on veut que d'autres personnes s'approprient le rapport. Ça, c'est totalement assumé, oui.
C'est assez un peu comme la commission Attali, non ? Il y avait un brillant secrétaire général qui s'appelait Emmanuel Macron.
Ah, c'est plus universitaire. Ouais. C'est plus en pointe sur la recherche. Et c'est moins axé uniquement sur la France et plus sur des programmes, des problèmes qui, en fait, s'appliquent à tous les pays du monde.
Et vous avez un calendrier ? On vous a fixé un calendrier, Thomas Philippon ?
Oui, les gens qui ont créé la commission, c'est Olivier Blanchard et Jean Tirole, donc oui. C'est eux qui sont les maîtres du calendrier avec le président, bien entendu. Mais oui, l'idée, c'est d'avoir le rapport d'ici la fin de l'année. On a des groupes de travail, on est tous sur Slack, là, donc on échange et on travaille. Et d'ici la fin de l'été, on aura des premières moutures, et d'ici l'automne, à la fin d'automne, on aura un rapport.
Maintenant, on a bien compris, mais c'était intéressant d'essayer de comprendre un peu comment vous travaillez à notre futur monde. Thomas Philippon, sur le chômage partiel, justement, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on essaye de maintenir le plus possible des emplois et éviter des licenciements qui s'annoncent quand même assez massifs?
Oui, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 phases. Donc là, le discours du président récemment montre bien qu'on rentre de plein pied dans la phase de réouverture. Et donc les instruments adaptés sont pas les mêmes quand vous êtes en confinement et quand vous êtes en réouverture. Quand vous êtes en confinement, honnêtement, le principe, c'est de protéger les gens et les entreprises. C'est l'État protecteur dans son rôle plein. Et donc, comment on protège les gens avec du pouvoir d'achat et en garantissant qu'ils puissent conserver un emploi. Et donc, s'ils peuvent pas travailler, et bien, ils restent employés, et l'emploi, les salaires sont payés par l'État, ce qui est la bonne chose, c'est efficace, c'est la manière de le faire. Les entreprises, en leur donnant tous les prêts dont elles ont besoin pour payer leurs frais durant la période du confinement. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, quand on sort du confinement, il faut évidemment changer les instruments, parce que le but, c'est pas d'aider les gens à rester chez eux, le but, c'est d'aider les gens à revenir au travail. Donc, le danger qui se passe... Et et les entreprises de reprendre la production. Ce qui fait qu'en gros, ça veut dire concrètement qu'il faut traiter deux sujets, le coût du travail les dettes des entreprises. Sur le coût du travail, il faut éviter d'avoir un mur où on passe d'une entreprise qui était très fortement couverte par le chômage partiel, donc qui en gros n'avait pas tellement à payer les salaires de ses employés durant la période du confinement. Et maintenant, si on lui demande du jour au lendemain de payer 100% des salaires courants, il y a forcément un choc énorme sur la demande de travail. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas dans le même état qu'elle était au mois de janvier. Il y a beaucoup plus d'incertitudes sur son carnet de commandes. Il y a beaucoup plus d'incertitudes sur l'organisation du travail et sur la productivité du travail. On ne sait pas combien de gens on pourra mettre en production. On ne sait pas comment on va adapter le lieu de travail. Tout ça, ça coûte de l'argent et ça diminue la productivité. Et donc, naturellement, il y aura une tendance en entreprise à diminuer la demande de travail. Donc, pour contrecarrer ça, ce qu'on propose, c'est de transférer une partie des dépenses qui étaient allouées au chômage partiel. On veut les transférer vers une subvention au salaire pour diminuer le coût du travail et aider l'embauche.
Oui, mais ça, c'est un peu le dispositif qui va être mis en place sur le chômage de longue durée, non ? Enfin, le chômage partiel de longue durée.
Tout à fait. Alors, ça peut s'adapter les dispositifs qui sont mis en place maintenant sur chômage partiel de longue durée, sur des accords par branche. Tout ça, ça peut se décliner de manière très précise dans les entreprises et dans les branches. Mais le principe de base, c'est ça. C'est que si on fait pas, il faut faire très attention à ne pas gâcher ce qu'on a réussi à faire pendant le confinement en ayant un gros choc sur la demande de travail parce qu'on tout d'un coup, on met des coûts aux entreprises qu'elles ne peuvent pas assumer.
Ouais. Tiens, est-ce que pour vous, le télétravail est quelque chose qui va profondément modifier le monde l'univers du travail, le monde du travail durablement, ou c'est plus ponctuel?
Ah non, je pense que c'est durable. D'accord. Ça, j'ai aucun doute que c'est durable. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément, on va revenir un peu à la normale. Mais ça fait très longtemps, vous savez, qu'on fait des enquêtes, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils préfèrent, et tout le monde préfère la même chose. Tout le monde veut faire 3-2 ou 2-3. Enfin, ce que je dis tout le monde, c'est 90% des gens, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils préfèrent, ils vous disent, j'aimerais bien aller 3 jours au bureau et travailler de chez moi 2 jours. Ou bien 2-3. Ça, c'est très stable. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Mmh. On l'a jamais fait parce qu'il y a un problème de coordination. Il faut qu'on se mette d'accord et puis il faut qu'on se convainque que ça marche. Ouais. Là, on a été obligé de le faire et je pense que du coup, il y aura un impact durable. Et moi, je prends plus l'avion pour donner des conférences, par exemple. Ça, c'est clair.
Ouais. C'est une
si
très
les gens veulent que je vienne faire des conférences, là, des conférences, littéralement cette semaine, sur les 5 dernières semaines des conférences, j'en ai fait 5 par semaine.
Ouais.
Toutes par Internet et c'est formidable.
Ah ouais, et puis surtout, ça fait, comme vous dites, c'est bon pour la planète. Comment éviter que cette récession en fait devienne une dépression, hein? C'est un peu toutes les pistes que vous cherchez. Sur l'autre grand risque, c'est la multiplication des faillites. Là aussi, vous avez des propositions assez concrètes, hein, Thomas Philippon.
Oui, alors ça, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là depuis longtemps. C'est un petit peu dans mes domaines de recherche personnelle. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a une espèce de mur de la dette qui arrive pour les entreprises, qui est surtout concentré pour les petites et moyennes entreprises. Donc concrètement, ça veut dire que il y a toujours des entreprises qui font faillite chaque année, d'accord. Mais là, on va en avoir peut-être 5 ou 6 fois plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils auront des difficultés de paiement, qu'ils ne pourront pas rembourser leurs dettes. Et le danger, c'est que si on ne fait pas gaffe, il y aura un gros nombre de ces entreprises qui vont se retrouver en liquidation, d'accord. Il faut bien comprendre, quand une entreprise a des difficultés à rembourser ses dettes, ça ne veut pas dire qu'il faut la fermer. Ça veut dire qu'on peut restructurer les dettes pour que l'entreprise continue à vivre et à produire simplement en remboursant moins de dettes. L'autre option, c'est la liquidation, c'est-à-dire on arrête l'activité. Et on sait qu'il y a un biais dans le système qui va trop souvent vers la liquidation en temps normal. Alors aujourd'hui, on n'est pas en temps normal. Et donc, tous les indicateurs montrent qu'il y en aura encore plus ce biais vers la liquidation. Et d'accord. Ça, c'est une catastrophe, parce que ça veut dire du chômage et des disparitions d'entreprises. Ouais. Donc, pour l'éviter, il faut un dispositif qui vous permette de favoriser l'accord à l'amiable, la restructuration des créances, plutôt que la liquidation.
D'accord.
Donc, ce qu'on propose, c'est un plan qu'on peut implémenter à grande échelle pour aller dans cette direction-là. La différence fondamentale avec ce qu'on a vu dans le passé, notamment avec la crise de 2009, c'est que là, on parle d'une échelle, d'un nombre de prêts énorme, c'est-à-dire les prêts garantis par l'État, c'est plusieurs centaines de milliers de prêts. Donc, on ne peut pas les traiter individuellement, un par un, au cas par cas.
Donc, il faut un grand dispositif. Merci beaucoup. Je suis désolée, Thomas Philippon, mais là, on doit rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous. On va vous rappeler, on va reprendre la discussion sur la réflexion de ce monde d'après. Merci beaucoup d'avoir été ici sur BFM Business. Voilà, c'est la fin de l'orage. J'ai juste le temps de vous souhaiter une très bonne journée.